With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Une application peut-elle remplacer un coach? Aujourd'hui, dans cet épisode, je vous invite à découvrir les coulisses d'une application qui pourrait justement, peut-être, devenir votre prochain coach de running. Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour, c'est Bertrand, bienvenue dans Kilomètre 42, le podcast dans lequel je vous parle de sport, de running, de lifestyle sportif et de comment finalement nous avons remis tous ensemble du sport dans nos vies, du mouvement dans nos vies, ou comment nous sommes remis à courir, comment nous avons retrouvé de l'énergie, des nouvelles formes, la forme au sens large, grâce au sport, grâce au mouvement, grâce à la course à pied. Bon, avant de commencer, d'abord j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, l'énergie, la patate, que vous sentez bien. Nous sommes aujourd'hui le 6 mai, de la diffusion de cet épisode, nous sommes encore en confinement, mais bien entendu peut-être... ça démange un petit peu dans les chaussures, etc. Si comme moi vous avez totalement arrêté de courir, bah là moi je le dis vraiment, et vous allez voir, je le dis je crois aussi dans l'épisode, dans la suite de l'épisode, moi ça fait plusieurs jours, j'enfile tous les jours mon short de running, je me suis remis sur mon vélo, je fais plus de, j'ai intensifié un petit peu les séances d'entraînement, vraiment, parce que je sens vraiment que là en ce moment ça frétille. Je voudrais aussi, avant d'aller plus loin, remercier d'abord ceux qui m'ont laissé un commentaire sur Apple Podcast. Vous savez que c'est super important pour que le podcast se fasse connaître, et là je vais remercier FredV39 qui va se reconnaître. Je suis ce podcast avec avidité depuis le début, même si je ne me prépare pas spécialement à courir un marathon. Le ton de Bertrand est vif et clair, et sa présentation simple et sans prétention de ses défis sportifs s'adresse à un public bien plus large que les marathoniens. Je recommande sans modération. Un grand merci FredV39, grand merci à toi. Et c'est vrai qu'en fait je m'adresse à tout le monde, sauf peut-être à... c'est vrai que Kilomètre 42 je l'avais lancé par rapport à mon marathon. Et parfois je me demande, est-ce qu'il faudrait pas que je change le nom du podcast, parce que il est peut-être un petit peu restrictif dans la tête des gens. Il y a peut-être des gens qui disent oui, c'est pour ceux qui veulent courir un marathon, pour les marathoniens, etc. Et alors qu'en fait, je vous rappelle que j'ai commencé moi la course à pied par des défis. Mon premier défi, qui était de courir un trail de 12 ou 13 km, me semblait insurmontable. Courir un 5 ou un 10 km vite me semblait à une époque très compliqué et insurmontable. Et même maintenant, quand je regarde un petit peu mon calendrier et quand je regarde l'année, si l'an dernier j'ai fait une dizaine de dossards, finalement il y a un marathon, et puis à côté de ça, il y a plein de petites courses, des petites courses qui peuvent être un petit peu la course de l'été, vous voyez, dans les stations balnéaires avec les pieds dans l'eau, etc. Des courses rigolotes, des courses nocturnes. Mais finalement, c'est vrai que Kilomètre 42, le terme en lui-même, c'était plutôt un clin d'œil à la fois à mon âge et à la fois à la distance. Je vous rappelle, c'était l'idée de courir un marathon pour mes 42 ans. C'était mon cadeau pour mes 42 ans, pour me prouver que j'étais vraiment, vraiment en vie. Voilà, vraiment en vie, vraiment plein d'énergie, et que j'avais vraiment retrouvé ma forme d'énergie, et que peut-être, je le dis, c'est un truc, je me dis que parfois je me sens plus jeune maintenant que je l'étais il y a 10 ans, quand j'étais un gros hamster joufflu sur mon canapé. Bien entendu, vous pouvez aller sur Apple Podcast, laisser aussi votre commentaire, je vous remercie d'avance pour les commentaires, et je remercie aussi les patrons, c'est-à-dire tous ceux qui financent le podcast par le biais de Patreon, par le financement participatif. Donc vous allez sur patreon.com/km42, vous pouvez donner à partir de 1 euro par épisode pour financer tout simplement tout ce qui se passe autour du podcast. Alors bien sûr, il y a tout un tas d'éléments techniques, de coûts, des choses comme ça, mais il y a aussi finalement la construction de quelque chose qui va beaucoup plus loin. C'est pour ça d'ailleurs que la chaîne YouTube s'appelle Le Mouvement, parce que c'est pas seulement le mouvement bouger, c'est aussi aller sur un mouvement, de dire que comment tous ensemble on progresse. Et moi vraiment mon but c'est d'aller vers, et je l'ai dit la semaine dernière, vers une dimension de vie beaucoup plus sportive. Et en fait le financement, que ce soit la publicité ou Patreon, m'aide tout simplement à construire moi ma vie sportive, sur un parcours d'une vie sportive, mais avec vraiment une place plus importante dedans. Vous voyez, c'est vivre un petit peu mon rêve de quand j'étais gamin. J'avais envie de devenir un sportif professionnel, et je me dis maintenant, est-ce qu'à 42 ans, 43 ans, est-ce que tu peux pas le faire? Oui, 43 ans, pardon, je me rajeunis, vous voyez, dans ces histoires de rajeunissement. L'avantage, quand vous êtes sur Patreon, c'est que vous avez les podcasts sans la pub, sans la petite coupure pub, il y a toujours un peu de pub beau début à la fin et puis au milieu sur les épisodes un petit peu longs. Et puis que tous les lundis, je vous diffuse aussi un épisode privé avec un petit peu où va le podcast, un petit peu les ressentis, mon calendrier d'entraînement, mon carnet d'entraînement finalement, les exercices que je fais, etc. Et que petit à petit, ça va s'étoffer, notamment aussi avec une zone membre sur le site km42.run dans lequel il y aura tout simplement des bonus vraiment téléchargeables pour ceux qui participent à la vie du podcast. Bon, cette intro était un petit peu longue, mais elle était nécessaire de le faire parce que c'est vrai que si vous débarquez dans le podcast, vous n'avez peut-être pas tous les éléments, vous n'avez peut-être pas encore écouté tous les épisodes, et je vous recommande d'aller écouter tous les épisodes, mais si vous ne l'avez pas fait, maintenant vous voyez vraiment qui je suis. Et maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet avec mon invité du jour. Alors, vraiment, quand je dis dans l'accroche du jour, c'est que nous avons tous fait la même chose. Nous faisons tous la même chose. Quand on débute, quand on veut progresser, quand on prépare une course, nous cherchons des conseils, des exercices, des plans d'entraînement. C'est le fameux plan marathon. Voilà, est-ce qu'il faut que je cours une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois par semaine? Combien il faut que je fasse? Quelle sera la durée de ma sortie longue? Est-ce qu'il faut que je fasse de la VMA, pas de la VMA, etc. Vous voyez toutes ces questions-là qu'on a en tête. Moi, j'essaie de répondre à certaines questions, mais d'une manière très généraliste. Moi, je vous parle de mon parcours, de comment j'ai fait, de comment j'ai préparé les choses, comment je travaille là-dessus. Il y a un vrai business qui s'est monté. Alors, il y a les livres, il y a des formations en ligne, il y a les magazines papier qui ont systématiquement... Vous pouvez prendre n'importe quel magazine papier sur la course à pied. Chaque mois, il y a des plans. Alors, des fois, c'est pour le 5 km, des fois, c'est pour le 10, des fois, c'est pour le marathon. Comment préparer le marathon de printemps? Comment préparer le marathon d'automne? Comment préparer la saison? Comment préparer un 5? Comment améliorer sa VMA? Vous voyez, tous ces plans-là, vous les avez tous. C'est un vrai business. Moi, j'ai regardé à la maison, j'avais un tas de magazines où je pouvais m'asseoir dessus tellement ils en avaient un paquet. Et dessus, finalement, il y a toujours le même truc. C'est que c'est toujours les mêmes plans qui reviennent en boucle, etc. Et qui sont des plans qui restent standards, figés, peu adaptés à nos objectifs ou notre forme du moment. Bah oui, ils ont été faits en fait pour des dizaines de milliers de lecteurs. Une fois que le bouquin, parce qu'il y a aussi dans des livres, une fois que le livre est imprimé, il est imprimé pour tous. On peut vous dire, essayez d'adapter un petit peu un pourcentage, essayez de calculer votre VMA, de calculer ça, etc. Mais ça reste un petit peu compliqué, ces histoires-là. Et puis, il y a des jours où on n'a pas envie, il y a des moments où on est malade. Moi, ça m'est arrivé, par exemple, sur le début de préparation marathon pour Paris l'an dernier, j'étais malade au début, donc il a fallu adapter. Il y a des fois, l'emploi du temps est un petit peu compliqué, on est obligé d'intervertir des séances, on est obligé de les modifier. Si vous voulez préparer les marathons, les grandes courses de l'automne, la préparation, elle va commencer en pleine chaleur, probablement. Moi, je me rappelle, j'avais commencé la préparation du marathon de Lyon le 14 juillet. Voilà, bon, c'était comme ça. Mais c'était une année de canicule. Il faisait très, 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 très chaud. Il y a des matins, j'étais allé courir, même à 5h ou 6h, il faisait déjà très chaud. Donc, on est vraiment dans cette recherche-là de comment on est capable, finalement, de construire un plan qui va nous aider à progresser. Que ce soit pour retrouver la forme, que ce soit pour améliorer ses temps, que ce soit pour courir des distances sur lesquelles on n'a jamais couru, que ce soit pour, vraiment se tester sur des nouveaux parcours, des nouvelles choses, etc. On est tous dans la même recherche. L'idéal vraiment pour ça, ça serait d'avoir un coach qui nous fasse ça du sur-mesure. Moi, je retrouve un petit peu avec le club ou l'entraîneur du club, quand on s'est inscrit sur le marathon, il nous a envoyé à tous un plan, mais je dis bien, il nous a envoyé à tous un plan. Alors après, en discutant avec lui, il va adapter, il va nous donner des conseils, il va faire adapter la vitesse, etc. Mais en fait, finalement, même les entraîneurs, ça reste des plans qui sont assez standards et sur lesquels ensuite, ils vont adapter sur les vitesses, sur les volumes, en donnant des conseils complémentaires, etc. C'est déjà un vrai pas qui est très 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 important. Mais en fait, vous n'êtes pas peut-être en club, vous n'avez peut-être pas de coach sous la main, comme ça, vous connaissez peut-être pas de coach, et vous n'êtes peut-être pas le budget pour aller vous prendre les services d'un coach, de services de coach, etc. Et donc, là, on cherche, donc c'est pour ça et ces bouquins ont autant de succès. Et donc, on pourrait se dire, comment je peux faire pour trouver d'autres informations là? Alors, bien sûr, on va piocher dans les groupes de discussion, dans les forums à une époque, maintenant dans les groupes de discussion sur Facebook, etc. Et puis, si on regarde un petit peu les applications que nous avons sous la main, les Strava qui est très doué sur la mesure et l'analyse, les Polar par exemple, moi j'ai ma montre Polar, Garmin, etc. C'est un peu tous la même chose. Des fois, il y a bien des plans qui sont quelque part. Dans les applications type Nike Running et compagnie, il y a bien des plans, il y a bien des choses comme ça, mais on reste toujours dans du standard. Et finalement, les différents éditeurs et fabricants de matériel sont souvent dans des plans qui sont assez figés, assez classiques, et le sur-mesure est compliqué à trouver, et vraiment le sur-mesure, il faudra avoir trouvé un coach. Alors, est-ce qu'il y aurait une solution qui existerait? Bon, c'est là où, moi, après, j'ai découvert l'application Run Motion Coach, qui apporte une dimension intéressante, et vraiment, ce que je voudrais faire dans cet épisode-là, en fait, c'est vous aller creuser comment ça fonctionne, parce que, en fait, c'est un petit peu intriguant, l'histoire de dire, c'est une application qui, contrairement aux autres applications, elle ne fait pas de tracking. Donc c'est une application qui marche à la fois sur iPhone et sur Android, mais vous n'allez pas partir avec pour courir et pas vous mesurer votre parcours, ce que vous faites comme distance, etc. Parce que en fait, elle n'a pas ces fonctionnalités là-dedans. En fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle vous pose plein de questions, elle vous crée un plan d'entraînement adapté à votre niveau, mais l'idée, c'est de savoir mais comment est conçu ce plan finalement, qui conçoit ce plan, comment il est conçu, est-ce qu'il est vraiment adapté, et c'est ce que j'ai voulu savoir vraiment, donc j'ai invité un des fondateurs de l'application à venir parler course à pied, entraînement. Et ce qui est intéressant, c'est que cette application a été créée par un athlète, un vrai athlète, vraiment, vous voyez, moi, ceux que je me dis, quand je vois courir dans la rue, me dit, lui, voilà, moi, c'est le vraiment, c'est l'athlète, voilà, celui que je considère comme un athlète, moi, à côté, je suis vraiment un escargot, et quand je vous dis que je suis un escargot, c'est que Guillaume Adam, donc, qui est l'un des cofondateurs de l'application, il a été sélectionné en équipe de France, il a un temps de 2h28 au marathon de New York, et enfin, voilà, moi, je vous rappelle que mon temps à moi, c'est 3h48, alors il a été sympa de me dire que je suis dans la première moitié des temps, parce que le temps moyen sur marathon, c'est 4h17, donc je suis dans la première moitié des plus rapides, donc c'est très sympathique à lui de dire ça, mais c'est vrai qu'on est dans un monde totalement différent, et vous allez voir dans l'épisode, quand il dit que sur son premier marathon, il était obligé de ralentir, mais que sa vitesse à lui, pour ralentir, c'était encore du 14 km/h, c'est une vitesse qui, moi, me fait rêver, parce que je suis pas capable de l'atteindre et courir un marathon à cette vitesse-là, j'adorerais, hein, voilà, j'adorerais, et c'est pour ça qu'on s'entraîne tous. Et donc, on a parlé de tout ça, son premier marathon, son parcours, qu'est-ce que c'est que l'équipe fait, finalement, il était sélectionné en équipe de France, et puis ses études d'ingénieur qui l'ont amené à travailler sur de l'entraînement, sur la prédictabilité des performances. Et c'est ce qui explique d'ailleurs comment l'application fonctionne un petit peu, c'est ce qui est vraiment très intéressant, parce que quand j'ai fait le test, et dans l'épisode, je fais le test, et je lui dis, voilà, je me suis inscrit sur un objectif, et ça me dit, par exemple, j'ai rentré pour le 4 ou 5 octobre, je voudrais battre mon record sur le 10 km, mais pas le battre juste de 2-3 minutes, j'ai dit, je voudrais faire un moins de 40 minutes au 10 km, ce qui pour un coureur lent, escargot comme moi, serait un truc qui me semble irréalisable, hein, en plus avec l'âge qui avance, normalement je suis censé être de moins en moins rapide, et l'application me met un petit message en trouvant, bon, c'est un petit peu ambitieux, mais c'est pas impossible de le faire, alors je me dis, mais d'où vient ce message-là, et c'est vraiment, vous voyez, on parle du fonctionnement, alors on a parlé de tout ça ensemble, on a parlé donc de son parcours, de ses conseils pour courir, je lui ai demandé s'il y a un coureur de ce niveau-là avait des fois du mal à se motiver, de comment il se motive en ce moment, comment on se motivait sur la fin de saison, quand toutes les courses disparaissent, hein, quand les calendriers disparaissent, comment lui il envisage les choses, hein, quels sont ses défis aussi, de comment il voit les choses, et vraiment on a parlé aussi de la notion d'entraînement, hein, il parle aussi des coachs, il a mis différents coachs dedans, des qui n'ont pas la même personnalité, qui correspondent à différentes choses, comment est-ce que le programme d'entraînement est créé, quels sont les conseils que donne l'application, vous allez voir, c'est très intéressant, et bien entendu vous retrouvez dans les notes de l'épisode tous les liens dont on parle, hein, notamment le site, la chaîne YouTube, comment télécharger l'application, vous verrez, vous pourrez tester, l'application elle est gratuite, après il y a des fonctionnalités premium quand dans toutes les applications, mais vraiment ça vous fait votre petit plan d'entraînement, il explique d'ailleurs pourquoi le plan d'entraînement est conçu de cette manière là, pourquoi vous n'avez pas un plan d'entraînement qui va se dérouler sur des semaines et des semaines, et comment il est adapté, et vraiment vous allez voir c'est assez intéressant sur la réflexion, sur finalement de se dire que est-ce que ça pourrait remplacer notre coach, le défi que j'avais envie de me lancer, mais peut-être vous vous lancerez vous, ça serait de se dire, tiens, et si je suivais les conseils de ce coach là, est-ce que vraiment je vais améliorer ma performance, c'est quelque chose qui est en train de me titiller, dites-moi vous si ça vous titille, en attendant, moi je vous laisse écouter cet épisode, je vous remercie tous encore pour vos commentaires, vos messages, votre soutien, les questions que vous m'envoyez, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, hein, on se retrouve bien entendu sur les réseaux sociaux, Instagram, etc, Strava, partout, et je vous laisse donc maintenant écouter cet épisode qui dure environ une petite heure de discussion où on a abordé beaucoup de sujets, à la fois sur la course à pied, sur l'entraînement, sur la motivation et sur le fonctionnement de ces plans d'entraînement. Bonne écoute à tous et à la semaine prochaine. Bonjour Guillaume.
Bonjour Bertrand.
Comment vas-tu?
Très bien. Il y a un beau temps ce matin. J'ai été faire un petit footing à jeun. Ça faisait du bien pour bien commencer la journée.
D'accord. Donc toi, tu cours. Alors je précise qu'on enregistre aujourd'hui. Nous sommes le 5 mai. Le confinement n'est pas terminé. Toi, tu as fait t'as pris le parti de continuer à courir pendant cette période?
En fait, comme beaucoup de personnes, je pense qu'on a eu tous des différentes phases pendant ce confinement. Donc au début, j'étais très actif. Je continuais à faire des séances à l'intérieur. Et puis après, j'ai fait une coupure de 15 jours parce que j'en avais besoin mentalement et physiquement. Et là, je reprends petit à petit, donc par des petits footings de 25-30 minutes pour y aller très progressif.
D'accord. Alors, je vais te demander de te présenter parce que c'est vrai j'ai enchaîné un petit peu rapidement sur l'histoire. Comment tu te... je te laisse te présenter, vas-y. Hein. Je sais pas comment tu te présentes d'habitude, donc je te laisse te présenter.
Je suis Guillaume Adam. Je cours depuis plus de 20 ans. J'ai 30 ans aujourd'hui. Et pour moi, la course à pied, c'est une passion depuis que je suis tout petit. Au début, c'était principalement pour courir avec mes amis, aussi avec mon frère jumeau, Romain, avec qui on avait une rivalité gemellaire. C'était marrant parce que souvent sur les courses, on était une fois c'était Romain qui était devant, une fois c'était moi. Et donc ça nous a bien boosté. C'était des bons ressorts de motivation. Et puis petit à petit, donc au début, on a commencé sur la piste et j'ai franchi les étapes une à une pour intégrer l'équipe de France d'athlétisme à 23 ans. Donc je sais ce que c'est que la persévérance. Parce que pour moi, intégrer l'équipe de France, c'était un rêve depuis que j'avais une dizaine d'années. Et donc, il a fallu franchir beaucoup d'étapes pour aller atteindre ce niveau-là. Et puis, depuis 2-3 ans maintenant, je fais aussi de la route, donc du marathon et du trail.
D'accord,
Et
comme...
en parallèle de ma pratique sportive, j'ai fait des études d'ingénieur, en fait, qui m'ont permis d'avoir un équilibre à côté de ma carrière sportive. Et ça, c'est plus important quand on veut performer en course à pied ou enfin performer dans un domaine, c'est important d'avoir un bon équilibre. Et donc, ça m'a permis d'aller un peu plus loin dans la pratique sportive. Et puis aujourd'hui, je suis aussi le cofondateur d'une application de coaching pour les coureurs qui s'appelle RunMotion.
D'accord. Alors quand tu dis équipe de France, sur quelle discipline tu c'était quoi ta discipline tu maîtrises le plus, on va dire. Je sais pas si on peut dire ça hein, à ce niveau-là, mais
Si, en fait, au début, j'ai commencé ma carrière plutôt sur du 800 mètres, le double tour de piste. Des efforts qui sont très intenses. On ressent l'acide lactique après quelques centaines de mètres. Et j'ai eu la chance de courir à quelques reprises avec Pierre-Ambroise Boss, qui était champion du monde du 800 mètres. Et en fait, à 22 ans, je me suis dit, bah tiens, je vais monter sur la distance supérieure, sur le 1500 mètres, parce que j'avais aussi des qualités d'endurance. Et j'étais en quelque sorte un peu limité par ma vitesse sur 800 mètres. Et donc je suis monté sur 1500 mètres. Et dès la première année, j'ai fait des super performances qui m'ont permis de faire une sélection en équipe de France. C'était les Jeux de la Francophonie. Donc j'avais couru le 1500 mètres en moins de 3 minutes et 40 secondes.
D'accord. Donc, pour le dire, hein, moi, les auditeurs, ils ont l'habitude, je dis, moi, je suis un coureur lent, voilà. Donc là, toi, t'es une flèche, hein, vraiment. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que tu as parlé de 800, de 1500. Moi, j'ai lu tes récits sur marathon. Hein, alors là, on est vraiment sur de l'opposé total. Hein, comment se passe le parcours, finalement, de discipline en discipline?
Ben, je pense que c'est un cheminement qui est personnel. Sur 800 mètres, en gros, pendant 7-8 ans, je faisais quasiment que du 800 mètres. Et au bout d'un moment, j'ai envie de voir autre chose. Et je pense que c'est pareil pour ma carrière sur piste. J'ai fait beaucoup de pistes jusqu'à 26 ans. Et en fait, tout simplement, à 26 ans, je me suis dit, ben, chaque course, ça se ressemblait un peu tout. Et j'avais l'impression d'avoir fait le tour de la piste. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit, ben, tiens, il faut que je me fixe des nouveaux défis. Et donc j'ai vécu de 25 à 26 ans à Boston. C'était génial là-bas pour l'athlétisme. C'est un peu la Mecque du demi-fond là-bas. Et quand je suis rentré en Savoie, je me suis dit, bah tiens, il faut que je profite des montagnes que j'ai autour de chez moi. Donc c'est comme ça que je me suis lancé sur trail. Et quand j'ai commencé le trail, bah forcément, on a envie de faire des distances un peu plus longues. Et c'est comme ça que je me suis dit, bah tiens, j'ai envie de faire aussi un marathon. Et en fait aussi cette passion du marathon, elle est venue quand j'étais à Boston. Je suis allé voir le marathon et là-bas c'est une religion le marathon de Boston comme le marathon de New York. Et quand on est spectateur ce genre d'événement, on a envie forcément d'être un jour de faire partie du peloton. Et donc c'est comme ça que je me suis dit, bah tiens, un jour il faut que je fasse un marathon. Et finalement c'est arrivé plus tôt que prévu.
Alors moi j'ai lu donc dans un récit, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, donc ton premier marathon c'était Lausanne, si je me trompe pas. Hein.
C'est bien ça.
Voilà, 2h28 hein, à peu près dans mes souvenirs.
Ouais, c'est ça.
Alors je mettrai les liens dans les notes de l'épisode pour voir le récit. Il y a un truc qui m'a rassuré. Alors comme je le dis, tu cours deux fois plus vite que moi, pas loin, hein, sur le. Enfin tu. Oui, on va dire presque. Hein.
Pas quand même.
Mais. T'as souffert hein, sur la course, c'est pas une course, voilà. Même les gens qui courent vite, j'ai envie de dire, souffrent aussi sur ces distances.
Bah, le marathon, c'est une course de patience. Et donc, je l'ai bien appris sur ce premier marathon. Le marathon de Lausanne, qui est magnifique, c'est au bord du lac Léman. Et donc, il y a quelques petites bosses quand même sur le parcours. Et c'était marrant parce qu'on était un groupe de 5 personnes, un groupe de 5 coureurs. Il y avait un peu des intox pendant la course parce qu'au bout du 15e kilomètre, c'était un Éthiopien qui avait attaqué. Et en fait, je me suis rendu compte, c'était un peu une étape du Tour de France à l'intérieur du marathon. C'est que les coureurs font souvent un peu de bluff au sein même du marathon. Et en fait, il y a des phases d'euphorie sur le marathon. Et moi, par exemple, au kilomètre 18, je me suis senti super bien. Et donc, je me suis dit, bah, tiens, à mon tour, je vais mettre une attaque. Donc, je passe au semi-marathon en 1h12, ce qui était un petit peu rapide. Et donc, forcément, après, sur le retour, sur les 15 derniers kilomètres, bah, il a fallu un peu serrer les dents pour arriver jusqu'au bout. Et donc, le plus dur, là, sur le marathon, ça reste, faut pas oublier que c'est une course de patience. Et finalement, c'est un peu le symbole de la vie. Parce que parfois, on peut avoir des moments d'euphorie, des moments moins bien. Et ce qu'il faut, c'est jamais rien lâcher. Et donc, concrètement, au kilomètre 35, il y a un Marocain qui attaque. Et donc là, je prends le mur en pleine face. Je passe en gros de 17 km/h à 15 km/h. Et après, même dans les deux derniers kilomètres, je finis à 14 km/h. Donc pour moi, c'est comme une décélération qui est assez importante, même si 14 km/h, ça reste encore plutôt pas mal. Mais musculairement, ouais, j'avais un peu. Enfin, mon geste était désuni. Donc j'ai pu vivre de nouvelles sensations en course à pied après 20 ans de pratique. J'ai pu découvrir ce que c'est le mur du marathon.
Ouais, c'est incroyable hein, quand j'ai lu ton récit, parce que c'est vrai que tu compares au 800, et je me dis, moi, le 800, pour moi, c'était l'effort qui me semble le plus violent de tous, hein, parce que c'est vraiment long et court et intense, enfin, c'est vraiment, c'est un truc de malade, moi, pour moi, je trouve le 800. Et quand on lit hein, ton récit, c'est vrai que tu dis, bah, finalement, la douleur, elle est autre, mais c'est dur hein, aussi, ces distances-là, je vous encourage à aller voir dedans parce qu'après le second marathon, c'est quoi? C'est New York, hein?
J'ai fait le marathon de Paris en deuxième et puis le marathon de New York en troisième, effectivement.
Voilà. Et marathon de New York, j'ai vu que tu l'as couru avec ton frère, mais vous faites pas les mêmes temps, en fait?
On avait à peu près le même niveau jusqu'à 16 ans. Et puis après, moi, j'ai pu un peu plus m'entraîner. Donc, j'ai progressé un petit peu plus que lui. Et Romain, lui, court le marathon. Son record, c'est 2h38.
D'accord. Comme quoi, on peut voir, hein, c'est ça, le fait d'être jumeaux. Hein, il y a des l'entraînement fait la différence aussi, avec des capacités de départ, de la génétique ou je sais pas quoi, comme certains pourraient l'espérer. C'est intéressant. Alors, ça reste 2h38. Moi, c'est un temps que je trouve assez incroyable. Et maintenant, on en parlait un petit peu juste avant. Hein, tu parlais de trail, de choses comme ça. Quand on a fait un parcours comme ça pour l'instant, qu'est-ce que tu envisages comme projet? Alors, même si cette année, je ne sais pas comment toi tu vois la fin de la saison, c'est des questions que j'ai eues, c'est comment est-ce qu'on envisage la fin de saison, qu'est-ce qu'on peut préparer, comment on va courir, etc. Sur quel genre de défi tu as envie de te lancer, tu vois, maintenant, par exemple?
Il y a 5 ans, ce que j'avais fait, c'était le Tour du Mont Blanc, donc exactement le parcours de l'UTMB, enfin à quelques variantes près. Donc c'était 160 km qu'on avait fait en 4 jours, avec une nuit en refuge à chaque fois. Et ça, c'est des défis qui sont super beaux, je trouve, parce qu'on arrive à apprendre un petit peu plus sur soi-même. Notamment, j'ai en mémoire la troisième journée, parce qu'en fait, quand on planifie le Tour du Mont Blanc, donc on passe par 3 pays. On commence en France, après on va en Italie et après on termine en Suisse. Et en fait, enfin, les temps de parcours sont pas les mêmes suivant les pays. Et donc, par exemple, quand en France on indique 8 heures de randonnée, par exemple. Et ben, souvent on arrive à gagner 30 ou 40% du temps quand on marche assez vite. Et par contre, les chronos qui sont indiqués en Suisse et en Italie sont hyper précis. Enfin, faut déjà des très bons marcheurs. Et donc, on s'est fait un peu avoir le troisième jour. On avait prévu une étape qui était beaucoup trop grande par rapport à ce qu'on avait imaginé. Et donc, du coup, on a dû partir le matin à 6h30 pour essayer de gagner un peu de temps. Et le soir, on est arrivé à 21h au troisième refuge. Et donc, quand on fait une journée assez intense de 6h30 à 8h30 le soir, eh ben, on découvre de nouvelles ressources mentales et de nouvelles ressources physiques. Et donc, moi, ce que je conseille, c'est de se fixer des défis comme ça, qui sont des défis qui sont personnels, parce qu'on ne sait pas forcément ce qui va se passer pour les courses de fin de saison. En tout cas, toutes les courses de l'été sont a priori annulées. Mais même pour les courses du mois de septembre, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Donc, je pense que l'idéal, c'est vraiment de se fixer des objectifs qui ont du sens pour soi. Et donc, ça peut être. Je sais que toi, Bertrand, tu habites à côté de Clermont-Ferrand. Donc, je pense aussi en Auvergne, tu as de quoi faire. Et donc, on peut tous se fixer des objectifs peut-être personnels et des objectifs qui ne dépendent pas de facteurs extérieurs. Donc moi, par exemple, je vais essayer de faire le tour de la Vanoise en moins d'un jour. Il doit y avoir 80 km.
D'accord, alors moi qui ai fait un peu de randonnée en vanoise, je me dis ça monte et ça descend quand même, ça me semble être un joli petit défi. Moi aussi d'ailleurs, c'est vrai que dans le genre, j'ai vu par exemple, tu citais ça, j'ai vu quelqu'un dans mes comptes Instagram qui veut traverser, il veut le traverser, tu vois, du Cantal au Puy-de-Dôme, etc., faire 160 km à travers l'Auvergne, etc. Ce genre de défi, c'est vrai que j'en ai vu quelques-uns hein, qui se lancent dans ce genre d'aventure. Des fois à la place de course qui sont annulées parce que c'est vrai et tu parlais de ça, mais je rappelle quand même que le marathon de Berlin a été annulé cette année, alors qu'il est fin septembre. Donc moi, je sais pas s'il faut mettre une pièce, par exemple, sur le. Si toi, si quelqu'un te dit je vais préparer une course en automne, tu lui dis vas-y, attends un peu. Comment tu parce que c'est une question que j'ai eue. Il y en a, ils me disent est-ce qu'on doit prendre un dossard pour la fin de l'année et comment on doit gérer ça?
Je pense que personne n'a vraiment la réponse, en tout cas, pour savoir si les courses auront lieu. Je pense, dans tous les cas, on aura au moins 3 mois pour se préparer. Parce qu'aujourd'hui, donc, on est début mai. Et si les courses ont lieu au mois de septembre, ça laisse quand même 4 mois de préparation. Donc, dans tous les cas, on pourra se préparer de manière quand même optimale pendant cette période-là. Ouais, c'est vrai que sur les courses, bah, déjà, il y a un autre facteur. C'est souvent, on avait des courses qui étaient prévues au printemps. Moi, par exemple, j'avais prévu de courir le marathon de Londres. Et donc là, le marathon de Londres a été reporté à l'automne, ce qui fait que j'avais aussi prévu le marathon de New York, à l'automne. Donc, ce qui fait que normalement, j'aurais 2 marathons en l'espace de 4 semaines. Et pour mon frère Romain, qui avait prévu de faire le marathon de Paris, il a même 2 marathons en 2 semaines. Donc déjà, la première étape, c'est de se dire, bah, tiens, quel marathon est-ce que je vais préparer en priorité? Est-ce que je fais les deux? Est-ce que c'est raisonnable de faire les deux? Donc ça, c'est des questions que chacun peut se poser, en fait, par rapport à ça, par rapport à comment est-ce qu'il le ressent. Et par expérience, c'est vrai que souvent, quand on court plusieurs lièvres à la fois, c'est comme ça qu'on peut arriver dans différents entraînements, on peut arriver à se blesser. Donc je pense que le plus important, c'est de se dire, bah, tiens, quelle est la course qui me fait le plus vibrer? Et de se préparer en conséquence par rapport à ça. Et puis, par exemple, pour des marathoniens, ce qui peut être intéressant pendant cette période-là, c'est de se dire, bah, tiens, je vais peut-être travailler ma vitesse, si la vitesse, c'est mon point faible. Dans ce cas-là, je peux peut-être partir sur un plan d'entraînement 10 km ou 5 km pour travailler ces points faibles.
Oui, effectivement, ça peut être une autre motivation finalement de se dire, puisque je peux pas faire les courses qui sont prévues ou qu'on sait pas trop, on peut essayer de travailler plein de points faibles. Je pense d'ailleurs que tout le monde a essayé de le faire un petit peu pendant cette période. Hein. Tu disais, on essaie de faire du sport à la maison. J'ai vu en certains, on a l'impression qu'on est transformé en crossfitter à faire du gainage, des abdos et tout à la maison en attendant de pas pouvoir courir ou quoi que ce soit. Chacun a un petit peu ses tactiques, mais c'est vrai que. Et moi j'ai vu, hein, c'est les questions que j'ai eues hein, sur des histoires de motivation, dire c'est quand même compliqué de se dire, et c'est là où on va en venir notamment après à l'application, au rôle que peuvent jouer les applications dans les entraînements, comment on fait par exemple. Moi je sais que je pense que j'aurai plus d'entraînement de club d'ici la fin de la saison, tu vois, alors que j'aimais bien mes deux sorties de club par semaine, etc. C'est pas facile hein, pour certains d'arriver à trouver la motivation quand. À la différence, on n'est pas parce que toi, finalement, t'as presque toujours couru, j'ai envie de dire, dans ta vie. Est-ce que t'as une, est-ce que, alors déjà, je pense, ça va rassurer du monde. Est-ce qu'il y a des jours, tu dis, j'ai pas envie d'aller courir ou je me sens un peu, me sens un peu feignant ou, tu vois, est-ce que ça arrive ça quand on a eu ton niveau?
Oui, clairement. Ben en fait, quand j'étais en équipe de France, je m'entraînais jusqu'à 12 fois par semaine. Donc, ça veut dire du bi-quotidien. Et à ce moment-là, bah, faut se forcer quand même pour aller à l'entraînement parce que courir plus de 7-8 fois par semaine, c'est quand même un peu chaud. Et donc, du coup, forcément, sur ces périodes-là, ce qui permet de se motiver, c'est de se dire, bah, tiens, j'ai un objectif qui a du sens pour moi, un objectif qui est ambitieux. Et ça, c'est souvent une grande source de motivation. C'est presque une motivation extrinsèque. Donc dans cette période-là, ouais, enfin, en tout cas, ouais, moi j'ai eu une période en 2 semaines, je me suis dit, j'ai rien envie de faire. Et ouais, c'est pas forcément facile de gérer ces périodes-là. Et même moi aussi, ça m'arrive. Souvent, ce qui peut arriver aussi pour bien se motiver, c'est de se dire, bah, tiens, j'y vais le matin, je commence par un footing. Parce que parfois, quand on a une journée qui est un peu fatigante au niveau du boulot, Et ben, le soir, on n'a plus d'énergie pour aller courir. Et le fait d'y aller le matin, c'est l'assurance d'aller faire son petit footing quotidien.
Oui, et alors moi j'ai même fait une vidéo la semaine dernière où je disais aux gens de faites-le, la première chose que vous devez faire le matin, c'est d'aller faire votre sport. Moi je me lève à 5h, alors là je suis content parce qu'il fait jour tôt et j'ai des habitudes, hein, c'est vrai comme ça. Une motivation, alors je sais pas si ça marche pour tout le monde, moi je le dis, moi il y a une motivation, c'est d'aller voir le lever du soleil sur ma petite montagne au-dessus de la maison. Essayez un jour, si vous avez un peu de mal à vous motiver, essayez de vous dire tiens je vais aller voir le lever du soleil un matin, et alors maintenant il va falloir partir de plus en plus tôt, hein, je le précise quand même, hein, comme on est au mois de mai. Le soleil se lève très tôt, mais vous allez voir, ça fait partie des motivations qui peuvent être intéressantes, hein, qui peuvent un petit peu changer, plutôt de se dire, tiens, je vais aller courir des heures plus classiques. Essayez, ou alors, à la limite, le soir, hein, essayez d'aller faire un coucher de soleil, ça fait partie du genre de motivations qui sont un petit peu, qui peuvent être un peu sympathiques, et je suis entièrement d'accord avec cette histoire de le faire le matin, ça peut fonctionner. Après, chacun a d'autres astuces, hein. Moi, il y a des astuces qui marchent pas du tout, dire tiens je vais acheter une nouvelle paire de baskets ou des choses comme ça, moi ça marche pas du tout ce genre de truc. Je sais pas toi si t'avais d'autres astuces, hein, à cette époque-là dans ta carrière, en disant bah tiens, est-ce qu'il y a pas un petit truc qui pourrait qui à coup sûr toi te dit allez j'y vais quoi.
Une autre astuce, c'est de s'habiller en tenue de course. Et une fois qu'on est habillé, c'est plus facile pour partir. Ouais, ça peut être ça. Ça peut être se mettre en tenue de course. Et souvent, ça fait venir la motivation. Et puis sinon, c'est aussi de courir en groupe. Bah, tout à l'heure, tu disais que tu allais courir deux fois en club, une fois par semaine. Et le fait de se fixer un rendez-vous avec un ami ou des rendez-vous comme ça en club, c'est la meilleure manière de se motiver. Et t'as pas envie de, entre guillemets, de décevoir ton ami et de ne pas y aller. Ou pareil pour le club, t'as envie de retrouver aussi tes amis. Donc ça peut être aussi un bon facteur de motivation.
Alors bien sûr en ce moment on peut pas, voilà, alors on est bloqué, on parce que je rappelle quand même qu'on doit, il n'y a pas de rassemblement, hein, jusqu'à en dessous de 10 personnes. Il faut respecter des règles de distanciation qui sont beaucoup plus importantes en running, hein, c'est vraiment faut être éloigné, donc je calculais que sur la piste qu'on a nous au club, il fallait on rentrait à pas nombreux sur la piste, peut-être une dizaine ou une vingtaine à pouvoir courir en se regardant les uns les autres. Ça ressemble à un test VMA, enfin, sur l'instant comme ça. Est-ce que justement, on va revenir à ton application, est-ce que justement les applications, les défis, on pense aussi au segment sur Strava, des choses comme ça, tu penses que ça fait partie des types de motivations qu'on peut trouver?
Bah, c'est vrai que les segments Strava, c'est souvent pas mal. Je sais que par exemple, l'année passée, j'avais un peu la flemme d'aller à la piste qui est en gros à 20 minutes de voiture de où j'habite. Et j'ai trouvé des segments de 400, 800, 1000 mètres qui étaient juste à côté de où j'habite. Et je me suis dit, bah, tiens, au lieu d'aller jusqu'au stade pour faire ma séance, bah, je vais faire ça sur la route, faire un travail équivalent. Et ça m'a motivé pendant quelques semaines. Donc ouais, ça peut être ça reste des challenges qui sont accessibles normalement un peu tout le temps. C'est vrai que en termes d'entraînement, faut pas que ça devienne trop non plus une habitude, parce que souvent quand on fait ce genre de défi, c'est pas forcément tout le temps compatible avec l'entraînement. Mais justement, il y a toujours moyen, je pense, d'intégrer ces challenges au sein d'une séance d'entraînement pour casser un peu la routine et puis de trouver une source de motivation supplémentaire.
Et oui, parce que je crois que surtout, il faut garder un côté jeu. Or, nous, on est des coureurs. Tu vois, moi, je t'ai invité dans mon club de coureurs, là où on est des coureurs lents, hein, pour beaucoup, hein. Moi, j'ai perdu 25 kilos dans ma vie. J'en ai d'autres, hein. J'ai des témoignages de certains qui ont perdu encore plus que moi, etc. Alors, on est tous avec des vitesses différentes. Comment on fait, maintenant, on va venir petit à petit à la progression, tu vois, Bon, tu vois, moi je cours que depuis 3 ans, 3-4 ans, quelque chose comme ça, pas grand-chose. Voilà, j'ai besoin d'un, tu vois, d'un truc qui me ferait vraiment progresser. Qu'est-ce que tu penses qui fait vraiment progresser quand on commence comme ça la course, quand on court depuis 2-3 ans? Je sais plus comment vous mettez dans Runmotion, hein, on commence à y prendre goût, je sais plus comment vous avez appelé ça, dans la catégorie où vous classez les coureurs qui courent depuis dans ces zones-là. Mais c'est quoi le conseil? Tu dirais, tiens, pour progresser, le truc qui fait vraiment progresser le plus fortement ou à coup sûr.
Dans l'entraînement, il y a deux piliers. Le premier pilier, ça va être l'endurance fondamentale, courir doucement. Souvent, c'est autour de 70%, en dessous de 70% de la fréquence cardiaque maximale. Et ça doit représenter entre 70 et 80% du volume de l'entraînement. Et il faut apprendre, c'est un peu paradoxal, en tout cas quand on commence la course à pied, pour courir, enfin, pour progresser, il faut aussi apprendre à courir lentement et longtemps. Et ça, c'est souvent, enfin, souvent, j'ai quelques utilisateurs d'applications RunMotion qui me disent, ouais, l'endurance fondamentale que vous proposez, c'est un peu trop lent. Et dans ce cas-là, c'est un peu compliqué de leur dire, ouais, enfin, si c'est ce que je leur dis, bah, s'il faut apprendre à courir très doucement. Et pour certains, c'est contre-intuitif. Même s'il y a beaucoup d'études qui ont montré que c'est une bonne façon pour progresser. Et donc le premier pilier, c'est l'endurance fondamentale. Et le deuxième pilier, c'est le fractionné. C'est réaliser des séances d'intensité. Donc suivant son niveau, ça va être bah, déjà des séances peut-être de 30-30, 30 secondes de rapide, 30 secondes de récupération. Suivant le niveau, il y aura un volume qui sera plus important. Et par exemple, pour des coureurs débutants, sur des séances de fractionnés, c'est souvent des volumes autour de 3 km au total, en tout cas pour des séances de VMA. Et puis pour des coureurs plus expérimentés, ça peut aller jusqu'à 8 ou voire 10 km de volume sur le total de la séance de fractionnés. Donc il faut trouver le bon compromis entre les deux. Et souvent, les adaptations physiologiques sont les meilleures à faible intensité et à haute intensité. Et après, sans parler du travail de travail spécifique à l'allure de course qui aura lieu, par exemple, pour le marathon, ça c'est le troisième type de séance où là l'idée c'est d'enregistrer l'allure de course et puis avoir aussi des résultats physiologiques par rapport à ça, des adaptations physiologiques qui permettront de tenir l'objectif qu'on s'est fixé le jour J.
Et oui, et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est impressionnant pour ceux qui n'ont pas couru de marathon et qui envisagent ça, alors à une échéance, vous verrez laquelle, hein, de toute façon. Moi, j'étais très surpris sur mon marathon, je ne regardais même pas le chrono pendant les 21 premiers kilomètres, je crois, j'ai pas regardé le chrono, ou juste pour me dire, mais tiens, c'est incroyable, t'es pile à ton allure marathon. Et c'est vrai que ce que tu dis, les séances d'enregistrer l'allure, hein, elles servent vraiment à ça. Vous allez voir, au bout de 10 semaines de préparation, ou 12 ou 16 pour certains, vous êtes tellement dans les allures à enregistrer qu'au bout d'un moment, ça devient presque une allure naturelle, on va dire. Alors ça veut pas dire qu'on la tienne comme ça tout le long du marathon, parce que bien sûr il y a des est-ce qu'on est capable de la tenir, est-ce qu'on peut partir plus vite, est-ce qu'on s'enflamme, il y a tout un tas de choses qui peuvent arriver, mais c'est vrai qu'on finit par enregistrer cette allure-là qui devient finalement une allure assez naturelle, et c'est vrai que c'est très intéressant. Si vous n'avez pas fait de marathon, vous envisagez, vous verrez, vous serez surpris par cet effet-là. Et par contre, alors ce que tu disais sur la vitesse lente, hein, sur l'endurance fondamentale, ça c'est vrai que. Et moi, il y a des débats et tout sur les échauffements, etc. Et les gens sont surpris à quel point il faut ralentir quand même. Hein. C'est surprenant. Je sais pas comment dire. C'est très lent, quoi.
Ouais, et puis là, ce que tu dis sur le marathon, sur l'allure qu'on mémorise, parfois les coureurs ont tendance à trop utiliser la montre GPS ou le cardio. La mesure de l'effort, l'un des facteurs pour mesurer l'effort, ça reste le ressenti. Et ça s'acquiert avec quelques années d'entraînement. C'est pas rare que des fois la montre GPS donne des allures qui sont fausses. Parce qu'il y a souvent des. Si le signal du GPS est pas trouvé par exemple par la montre, dans ce cas-là, des fois ça peut indiquer des allures qui sont un peu farfelues. Et si on se base trop sur ces indications-là, et ben, le jour du marathon, si ça t'arrive, t'es un peu perdu. Donc c'est pour ça que c'est bien aussi de courir un peu à la sensation.
Oui, effectivement. Et puis j'avais lu, hein, comme quoi aussi les Kényans ne couraient pas toujours la même allure, que parfois ils accéléraient, parfois ils ralentissaient. Enfin voilà, qu'ils sont. On a l'impression qu'ils partent toujours à la même allure. Alors bien sûr, en plus c'est trompeur avec les images. Moi je t'avais sûrement regardé Kipchoge en direct sur courir en moins de 2 heures son marathon, mais on a l'impression qu'il est toujours à la même allure, ce qui était le cas, hein, pour courir son marathon. Mais en fait, dans les courses, et tu le disais, il y a des moments où on se sent mieux, des moments où on a un peu d'euphorie, des moments où on se sent un peu moins bien, il faut savoir aussi récupérer. Et c'est vrai que la sensation, elle fait partie des choses qui sont extrêmement importantes. On a beaucoup parlé de ton parcours. Finalement, qu'est-ce qui te vient à. Comment t'es passé à créer cette application RunMotion dont on va parler un petit peu maintenant?
On avait avec mon frère Romain, on avait de plus en plus de proches qui me demandaient des conseils. Par exemple, moi j'avais des amis qui avaient fait leur ouais, qui voulaient faire leur premier marathon. Et du coup, je leur ai donné quelques petits conseils enfin, souvent ils prenaient un plan d'entraînement qu'ils trouvaient sur Internet. Ils avaient souvent beaucoup de questions par rapport à ça. Est-ce que je prends en compte la fréquence cardiaque? Est-ce que je prends en compte le pourcentage de VMA? Et en fait, je me suis rendu compte assez rapidement que donner ces conseils-là, ça leur permettait de bien progresser et puis de mieux comprendre ce qu'ils réalisaient. Donc c'est pour ça que je me suis dit, bah tiens, faut qu'on crée. On a eu cette idée avec Romain lors d'un footing, parce que souvent quand on court, on a plein d'idées. Et donc on avait partagé là cette vision. Et donc c'est à partir de là qu'on s'est dit, bah tiens, faut qu'on crée un service qui soit accessible au plus grand nombre. Et ce qu'on souhaite, c'est permettre à chacun de s'épanouir par la course à pied. Et parfois, dans les coureurs élites, il y a des coureurs élites qui ne considèrent entre guillemets que la pratique élite. Et nous, au contraire, vu qu'on a beaucoup de proches qui peuvent voir des bienfaits à courir, ce qui est bien, c'est que enfin, ch chacun a besoin de conseils et chacun mérite d'avoir des conseils pour progresser.
Alors, que fait l'application exactement? Alors, moi, je le dis, hein, j'ai créé un compte. Alors, comme je cours pas en ce moment, je suis un peu. Je me suis retrouvé bloqué. Quel est ton objectif? Comment tu vas reprendre, etc. Mais finalement, le concept, l'idée, c'est comment vous aider le coureur à progresser?
C'est avec un plan d'entraînement sur mesure. On prend en compte l'expérience du coureur, on prend en compte ses objectifs. Donc, on pourra peut-être en parler juste après de quels objectifs on peut rentrer pendant cette période. On prend en compte ensuite ses disponibilités, parce que chaque semaine, on n'a pas forcément tout le temps les mêmes disponibilités. Peut-être que cette semaine, je peux peut-être courir que 2 fois, et puis la semaine suivante, peut-être 4 fois. Donc, le but, c'est de s'adapter le plus possible au coureur. Et pas l'inverse, parce que souvent, quand on a un plan d'entraînement qui est figé, on doit s'adapter à notre plan, et ça ne correspond pas forcément aux attentes des coureurs. Et donc, on a un plan d'entraînement sur mesure qui a une progression jusqu'à l'objectif. On n'est pas forcément obligé de rentrer à l'objectif pile 12 ou 16 semaines avant le marathon. Si on rentre, par exemple, l'objectif, je ne sais pas, 24 semaines avant, on va d'abord travailler un peu plus de vitesse, et après, on va basculer uniquement dans les dernières semaines, enfin, dans les 14 dernières semaines sur un plan d'entraînement marathon. Donc, on a un plan d'entraînement qui est adapté à la vie du coureur. Et la deuxième facette, c'est la partie motivation. Donc, on a des conseils avec le coach digital. On donne des conseils en lien avec le type de séance. On essaye de booster le coureur. Et donc, on peut même choisir la personnalité du coach si on veut un coach philosophe, positif ou autoritaire, suivant ses propres ressorts de motivation. Et donc ça,
D'accord.
c'est parti chatbot et c'est parti conversation avec le coach. C'est notre innovation et on retrouve nulle part ailleurs sur des applications de coaching.
D'accord, donc le coach philosophe, on se rend pas compte, c'est quoi un coach philosophe finalement?
Coach philosophe, c'est Socrate. Vous pourrez vous entraîner avec Socrate qui a 864 ans et qui court plus aussi vite que toi, mais il a acquis la sagesse de l'entraînement. Et donc Socrate, ça va être, il va faire relativiser les choses. Et puis, il va essayer aussi d'apporter de la sagesse et puis de l'inspiration aux coureurs, avec des citations et puis avec ouais, un peu dans l'ambiance ouais, philosophe.
Ouais, parce que alors ça me rassure parce que on a toujours l'image du coach un peu autoritaire qui dit faut faire ça, etc. et tout. Donc on peut avoir un coach philosophe, on peut progresser grâce à un coach philosophe. Bah, c'est super rassurant, moi je trouve comme concept. Mais finalement comment est-ce qu'on dit? Tiens, je vais mettre Socrate comme coach. Enfin là moi ça m'intéresse, tu vois, sur la créativité le truc m'intéresse.
C'est Paul qui était le coach de Romain, qui est également un des cofondateurs de l'application. Il aime beaucoup tout ce qui est psychologie. Il a d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle L'art de gagner. Et donc lui, il est assez inspiré par tout ce qui est philosophie aussi asiatique. Et donc on s'est dit assez rapidement, on est parti du constat qu'on avait des ressorts de motivation qui sont un peu différents. Et par exemple, Paul, lui, avec Romain, il avait besoin d'être positif. Et avec certains autres athlètes, au contraire, il s'adaptait, puis il essayait d'avoir une posture un peu plus autoritaire. Et ça marchait bien, en fait, suivant chacun des types d'athlètes. Et donc, c'est lui qui s'est dit, bah, tiens, faudrait qu'on applique plusieurs personnalités au sein de l'application. Et donc, assez naturellement, il y avait le positif et l'autoritaire. Et puis, Paul, vu qu'il aime bien tout ce qui est philosophie, il a aussi souhaité intégrer la partie philosophe. Et peut-être qu'un jour, on intégrera encore une autre personnalité si on a des demandes dans ce sens-là.
Et oui, parce que c'est vrai qu'après on en a plein. Moi, je suis très dans le stoïcisme en ce moment, mais c'est assez philosophique hein. Finalement. Le stoïcisme, c'est pas Socrate, mais c'est encore une autre forme de chose, mais qui s'applique très bien à la course à pied. Un jour, il faudra que je fasse un épisode sur le sujet parce que ça s'applique extrêmement bien. Il y a plein de trucs qui s'appliquent beaucoup là-dedans. Alors, je le dis, hein, quand on télécharge l'application, elle est disponible sur Android et sur iPhone, hein, sur les deux.
Oui, exactement.
Donc il y a un chatbot, hein, c'est sur le ton de la conversation qui nous demande notre prénom, notre âge, des choses comme ça. Hein, je l'ai créé il y a quelques jours, tu vois, je me rappelle déjà plus des différentes étapes, mais on va dire que ça crée notre profil au départ sur l'art de la conversation, quoi.
Oui, exactement. C'est une manière conviviale de demander au coureur qui il est et pour savoir un petit peu plus, pour pouvoir lui donner un entraînement qui est adapté à sa pratique.
Alors, c'est là où on en vient justement ensuite à la difficulté, c'est qu'une fois qu'on est dans l'application, donc moi j'ai mon petit prénom et tout, j'ai marqué mes années d'expérience, j'ai marqué mon dernier temps en course, hein, alors qui date à début janvier, et ça me demande définir un objectif. Et là, qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est là où, tu vois, là, les gens nous écoutent, là, aujourd'hui, ça va être diffusé à partir du 6 mai. Qu'est-ce qu'on fait pour définir l'objectif? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre là maintenant dans cette période-là?
Il y a plusieurs types d'objectifs. C'est les objectifs de course. Il y a des objectifs également de bien-être. Et donc pour le bien-être, par exemple, c'est si on veut commencer à courir, si on commence la course à pied, par exemple, déjà arriver. Une première étape, c'est déjà d'arriver à courir 30 minutes sans s'arrêter. Deuxième étape, ça peut être aussi de courir une heure sans s'arrêter. Ça, c'est plutôt des objectifs bien-être. Et puis il y a également des objectifs pour s'entraîner pour d'autres sports. Et on demande dans ce cas-là si la personne veut plutôt travailler de l'endurance. Ou sinon travailler plutôt de l'explosivité. Et donc moi mon conseil ça peut être si on veut travailler par exemple la vitesse, c'est de rentrer entre guillemets une course fictive qui pourrait avoir lieu début septembre par exemple. Et donc cette course fictive on pourrait mettre 10 km je sais pas, le 10 km de chez soi. Et donc comme ça on aura un plan d'entraînement qui sera calqué sur une course début septembre sur un 10 km, et là par exemple, ça te permettra de travailler la vitesse. Ou au contraire, si ce qui peut être aussi intéressant, c'est de partir sur une préparation de marathon, et dans ce cas-là, de rentrer un marathon si on veut vraiment travailler l'endurance.
Voilà.
Après, la seule difficulté, ça va être peut-être l'été, si on veut préparer un marathon. C'est vrai que d'habitude, c'est plutôt au printemps et à l'automne, donc on a des températures qui sont plutôt assez clémentes. Et pendant l'été, il faut quand même faire attention à bien s'hydrater, encore plus que d'habitude. Et puis, pourquoi pas, sur les sorties longues, les découper en deux sorties quotidiennes. Par exemple, si on a prévu de faire une sortie longue je sais pas, de 2 heures, on peut très bien faire 1 heure le matin et 1 heure le soir pour courir aux horaires qui sont les plus agréables.
Oui, moi je l'avais vécu parce que quand j'avais préparé le marathon de Lyon il y a 2 ans maintenant, j'avais commencé ma préparation le 14 juillet. Hein, le marathon de Lyon étant c'était le 6 octobre. Voilà, c'était quand on remonte le chrono, hein, quand on dit ben qu'est-ce qu'on fait 12 semaines avant, on se retrouve mi-juillet avec c'était l'année de la canicule, etc. Donc c'est vrai qu'il faut prendre en compte. Hein, c'est pas toujours très facile. Alors tu vois, j'ai fait ça. Moi je me suis prévu une course. Tu vois, je suis en train de le faire en même temps. Le 4 octobre, un 10 km. Hop, je veux être. Allez, je vais mettre un chrono parce qu'on peut demander, on peut dire, je veux être finisher ou finalement faire un chrono. Hein, c'est assez. On a un de ces objectifs qui est marqué comme ça. Attends, je vais mettre un temps fictif. Tu vois, je le fais en même temps comme ça. Hop. Bon, j'ai mis un temps qui est un peu ambitieux.
Concrètement, en fait, quand on demande les courses passées au coureur, ça nous permet de déterminer les allures de course. Comme ça, c'est transparent pour le coureur. Il n'y a pas besoin de calculer des pourcentages de VMA. Il faut que ce soit le plus simple possible. Et donc, nous, à partir de là, on est capable de calculer à partir de 1 ou 2 résultats de course. On peut avoir des estimations sur le chrono, sur le marathon, par exemple. Et du coup, si par exemple, on estime qu'aujourd'hui, ton niveau est à 4 heures au marathon, par exemple, et que tu vas rentrer un marathon à 3h30, il va y avoir une progression sur les allures pour t'emmener de ton niveau actuel jusqu'au niveau souhaité pour la course. Donc, il y a une progression à la fois sur le contenu des séances et puis également sur les allures des séances.
D'accord. Alors là, je le dis honnêtement, hein, je viens de rentrer à un 10 km le 4 octobre, 10 km en 40 minutes. Et là, qu'est-ce qu'il me dit? Je ne te cache pas que le chrono semble ambitieux, mais j'y crois, accroche-toi. Alors, est-ce qu'il est philosophe ou est-ce qu'il est... C'est quel coach là qui me parle quand il dit ça?
Concrètement, c'est en fait là on a dû calculer le chrono qu'on estime que tu peux faire à partir de tes chronos passés. Normalement, si c'est supérieur à 5%, s'il faut que tu améliores tes performances de plus de 5%, dans ce cas-là, on te met ce petit message pour te dire que ouais, c'est possible. Il y a des coureurs qui arrivent à progresser autant en quelques semaines. Et donc, c'est possible. Donc, nous, on veut pas te brider. On veut surtout t'encourager dans cet objectif-là. Parce que là, tu as rentré un objectif, j'imagine, qui est meilleur que ton chrono actuel, en fait.
Oui, parce qu'en fait, alors j'avais rentré qu'une course parce que j'avais rentré un 5 km en 20 minutes et 20 secondes ou quelque chose comme ça, non mais l'autre jour quand je me suis inscrit. Et donc là j'ai demandé à dire je vais faire le 10 km en 40 minutes, qui est un peu l'espèce de barrière qui me semble inaccessible pour moi. Mais effectivement, c'est ambitieux. Non mais votre application elle est super réaliste sur le truc, c'est-à-dire que quand elle dit que c'est ambitieux, oui, c'est ambitieux cette histoire-là. Mais il y a des gens au club et c'est ça que ça me fait rire parce que ça, il y a quelqu'un qui m'a dit monsieur, tu vas le faire, tu peux y arriver, tu verras, etc. Donc finalement, je retrouve des personnalités que je croise au club, de gens qui ont un peu cette vision un peu philosophique qui dit oui, tu vas y arriver, tu verras, accroche-toi, tu peux, c'est possible.
Il
Alors.
faut rester positif le plus possible parce que si coureur, bah si comme toi tu cours depuis 3 ans, bah moi j'y crois. La progression, elle peut être assez importante. La pire des choses que j'ai pu voir des fois dans les clubs d'athlètes, c'est un peu parfois d'être un peu pessimiste, des coachs qui croient pas trop aux coureurs. Et non, il faut être positif. Pour réussir quelque chose, il faut avoir un bon état d'esprit par rapport à ça. Et par contre, si tu avais rentré ton 10 km en 25 minutes, donc qui aurait été plus rapide que le record du monde, tu aurais eu par contre un message qui te dit non, tu peux pas rentrer ce chrono, ou alors peut-être que tu prépares les Jeux Olympiques. Donc on vérifie quand même si les chronos sont pas beaucoup trop ambitieux.
Ouais, c'est ça. Alors, ensuite, donc là, mon objectif, il m'a permis de le définir, et donc maintenant, donc j'ai effectivement, il me dit que j'ai 21 semaines pour m'entraîner. Bon, ça va, ça me laisse un peu de marge quand même pour progresser. Mais ça veut dire qu'à partir de là maintenant, je peux retrouver un plan d'entraînement qui va m'aider en fait à atteindre petit à petit le niveau que vous jugez que j'ai besoin d'atteindre. Comment vous le calculez? Enfin, comment ça marche après derrière cette histoire?
J'avais travaillé quand j'étais à Boston, j'avais travaillé sur un projet de recherche sur la prédiction de performance en course à pied. Et on se rend compte qu'à partir de deux résultats de course, on est capable d'estimer la VMA du coureur et également d'estimer son endurance. Et donc, schématiquement, ouais, donc ça dépend vraiment de ces deux facteurs-là, de la VMA et l'endurance. Et donc, on estime aujourd'hui, à partir de ton résultat de course, enfin, on calcule ta VMA et ton endurance. Et pour arriver à ton objectif, on va calculer l'amélioration de VMA qui sera nécessaire. Donc si par exemple il te dit, peut-être qu'il faut améliorer ta VMA de 10%. Et donc dans ce cas-là, on va avoir une progression sur les 21 semaines. Au début, bah, tu auras les allures actuelles. Parce qu'on part du principe que tu es à ton niveau actuel, c'est ton dernier chrono. Et donc du coup, tu auras une progression avec des chronos qui vont être, si c'est sur 21 semaines, et ben, tu auras une progression de 0,5% chaque semaine, pour arriver jusqu'à la VMA théorique pour être prêt pour faire 40 minutes le jour J.
D'accord. Alors là, j'ai remodifié un petit peu. Mais si je rentre une course que j'avais pas rentrée au départ et que je la re-rentre après, ça recalcule à chaque fois ou comment ça se passe après? Vous adaptez en fur et à mesure après avec les données qu'on va rentrer, les choses comme ça?
Oui, exactement. Si tu modifies ton chrono passé, tu devrais avoir directement le changement des allures dans l'application.
D'accord. Alors maintenant, voilà. Moi, j'ai l'entraînement, etc. Affine le programme de ta semaine. Alors, c'est extrêmement bien fait. Il y a le programme de la semaine et autres. Ça donne des petits conseils au même temps. Et ça me demande si je suis en forme, en fatigué, malade ou blessé. Ça aussi, ça rentre dans l'évaluation de ce que je dois faire ou finalement, c'est juste pour être sympathique.
Si ça rend en compte, et notamment là tu as aussi une option, normalement c'est je suis en phase de reprise. Donc dans tous les cas, on a quand même une progression sur les 2 3 premières semaines. Souvent c'est quand même assez facile. Et si jamais par exemple tu es blessé pendant, je sais pas, si tu es blessé pendant 2 semaines, si tu mets je suis en reprise, dans tous les cas tu vas avoir un programme d'entraînement qui va être plus facile. Et de la même manière, si tu dis que tu es blessé, nous, ce qu'on souhaite mettre en avant, c'est la prévention. Si tu dis que tu as une blessure, on va te dire est-ce que tu veux prendre une semaine de repos? Est-ce que tu veux alléger ta semaine? Et là, on va donner des conseils. Bah, tiens, c'est bien d'aller consulter un médecin ou aller voir un ostéopathe pour, enfin, dès que tu as une première douleur, parce que souvent, enfin, plus tôt on s'y prend, plus la guérison sera rapide.
Ouais.
Donc on souhaite faire passer ces messages-là et c'est basé sur notre expérience de coureur. On a fait ces erreurs-là, de continuer à courir quand on est blessé et on se rend compte que, enfin, ouais, on a mis toute notre expérience dans l'application pour que le coureur puisse être guidé dans sa pratique.
Et oui, alors effectivement, il y a, je suis en reprise, hein, donc qui me dit donc on va reprendre progressivement. Et ensuite, ça me permet de, ça fait un programme de la semaine. Ça demande quel jour on veut courir, voilà. Et ça calcule ensuite les différentes séances qu'on doit faire. Alors là, je le dis en parlant, je suis en train de calculer. J'ai hâte de voir ce que vous allez me proposer pour ma reprise. Comment s'appelle le, est-ce que l'application après elle guide pendant l'entraînement ou est-ce que finalement ça donne un programme? Est-ce que tu vois c'est, est-ce qu'on est comme dans les je sais pas les Runkeeper, les Strava, qu'on est chrono intégré ou est-ce que c'est on reste au niveau du programme?
Donc on reste au niveau du programme. On n'a pas forcément voulu s'aventurer dans le tracking d'activité. Et c'est ce en quoi on se différencie de ces applications. Parce que le tracking d'activité, ce qui est toujours un peu compliqué, c'est la précision du GPS. Quand on utilise par exemple Runkeeper, c'est pas toujours très précis. Et nous, au début, notre public, c'était plutôt des coureurs. Enfin, aujourd'hui, on s'adresse à tous les coureurs. Mais au début, on avait plutôt, dans l'étude de marché qu'on avait faite, on avait identifié que la plupart des coureurs utilisaient des montres GPS. Et les coureurs qu'on avait interviewés n'utilisaient pas spécialement le téléphone pour courir. Donc c'est pour ça qu'on est resté sur de la programmation d'entraînement. Et ce qu'on a fait maintenant depuis février, on a intégré Strava, Garmin, Polar et Suunto. Donc on peut récupérer les activités que le coureur a fait directement sur l'application et après ça on y affiche sur l'écran bilan. Donc comme ça on sait ce que le coureur a fait. Et là, ce qu'on est en train de faire comme développement, c'est si par exemple on a une Garmin, on pourra exporter les séances qui ont été prévues là dans Affinita Semaine et on pourra les exporter directement sur sa Garmin pour pouvoir commencer l'entraînement directement et suivre l'entraînement plus facilement. Donc ça devrait être proposé d'ici quelques semaines, on travaille dessus.
D'accord. Alors moi, bon, j'ai pas choisi mon coach encore, donc j'ai vu le choix du coach. Et effectivement, donc j'ai un programme. Ouh là là, demain 10 fois 20 secondes de VMA. Bon, ça va, c'est pas trop. C'est comment dire? Vous êtes moins hard que mon coach, hein, en fait. Hein. Vraiment, on est dans la reprise là. Hein.
Ouais, bah pour la reprise, c'est d'un point de vue biomécanique, on s'est petit à petit désadapté. Si on a coupé pendant 3-4 semaines, le corps n'est plus forcément prêt à courir tout de suite. Donc il faut être hyper progressif par rapport à ça. Et moi, par exemple, pour ma reprise, je faisais des petits footings de 25-30 minutes, quelques petits exercices aussi de travail de gamme. Et ouais, quand on est dans la reprise, il faut être ultra progressif et être
Oui.
patient. Et surtout être patient.
Ouais, et c'est ça, donc c'est intéressant, hein. Donc je dis en direct, hein, parce que donc il me propose une VMA de 10 fois 20 secondes, endurance 45 minutes, donc c'est vraiment une séance qui est légère, VMA 8 fois 1 minute, oui ça commence un petit peu à augmenter, et puis au fur et à mesure, alors il y a des petits conseils, préparation physique, il y a des... Alors, il est en train de me causer. Le renforcement musculaire est utile pour améliorer l'efficacité de la foulée. Voilà, avec différents types d'exercices. Donc là encore, hein, j'imagine, ça fait partie de bah, ce que tu disais, votre expérience que vous avez de. On parlait de gainage, de proprioception d'ailleurs, hein, ce qui est intéressant, c'est un sujet que j'aborde régulièrement dans le podcast. Fait partie aussi des choses qu'il faut absolument faire pour progresser à ton sens.
Bah ça a surtout participé à la prévention des blessures, tout ce qui est gainage et proprioception, notamment pour les chevilles. C'est pour aussi prévenir les blessures du genou, la proprioception c'est aussi utile. Donc ça c'est des petits à côté qui sont pas forcément nécessaires pour progresser. Enfin on va plus progresser en tout cas en faisant les séances de course à pied, mais par contre ça va venir ouais, participer à la prévention et puis à l'efficacité de la foulée. Et par exemple, là aussi, dans la conversation, préparation physique, si jamais tu prépares une course de trail, tu peux aussi choisir de la PPG. Donc la PPG, c'est des exercices de renforcement musculaire qui font aussi travailler parfois aussi un peu le cardio et qui vont permettre de renforcer les muscles pour être prêt à absorber les chocs en descente et puis avoir plus de puissance en montée. Et puis après aussi, dans cette séance-là, il y a aussi du travail de technique de course. Ça, c'est intéressant aussi pour avoir augmenté l'amplitude de sa foulée ou travailler un peu plus sa fréquence.
Oui, c'est ce que j'étais en train de regarder justement, j'étais dans les techniques de course, parce que j'ai prévu que ma reprise serait justement sur la technique de course. Alors, ça nous donne des exercices, des roulés de pied, fente, pas chassé, foulée sautillante, etc. Avec des. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a la fiche qui dit voilà les exercices, et puis des vidéos, hein, vous renvoyez sur des vidéos pour montrer les exercices. Donc vraiment, l'aspect coach dans la poche est vraiment très intégré, où on peut finalement. Être autonome hein, dans la préparation, de se dire je vais pouvoir faire mes séances, progresser avec vraiment tous les conseils sur tous les aspects, quoi.
Oui, exactement. Et puis, il y a des aspects sur la nutrition qu'on va donner dans les 2 dernières semaines avant la course. On va dire qu'il faut tout tester avant le jour J, ne rien laisser au hasard. Et donc, on va donner des conseils aussi sur la recharge glucidique avant un marathon, par exemple. Et ça, c'est des conseils qu'on donne aujourd'hui uniquement dans les 2 dernières semaines. Et là, on est en train de réfléchir pour potentiellement donner ces conseils-là, par exemple, tous les mois sur des thématiques, par exemple, réduire la consommation de sucre. Ou consommer les bonnes graisses. Ça, ça peut être des thématiques qui seront données à tout le monde, par exemple, tous les mois. Ouais, aujourd'hui, au début, Run Motion, c'était principalement de la course à pied. Et puis maintenant, on essaye de rajouter toutes les facettes à côté de la course à pied pour tout simplement progresser et puis s'épanouir. Potentiellement aussi rajouter des séances de sophrologie, par exemple. Donc ça va. Ouais, le coureur a besoin d'être bien dans sa tête, bien, bien dans son corps pour pouvoir être prêt le jour J et pour pouvoir performer. Donc on ajoute tout ça au fur et à mesure.
Et oui, alors c'est intéressant, moi c'est un aspect qui m'intéresse beaucoup, parce que je sais que moi j'ai une petite faiblesse dans ma tête, hein. Il y a des moments où j'ai plus envie d'avancer, ou mais c'est vraiment dans la tête, cette histoire-là. Et ça fait beaucoup rire, je le dis au club, et elle va me manquer quand de pas pouvoir courir avec elle, et elle me dit, ah bah tu vois, t'as encore lâché dans le 7e tour. Systématiquement, sur les 10, il y a toujours à un moment donné, la 7e répétition, où j'ai toujours une petite faiblesse. Donc effectivement, moi je suis preneur, hein. Si un jour vous mettez ça dans l'application de ce type de conseils sur la préparation marathon aussi, je le dis, je sais que j'ai pris le mur parce que j'avais visé le mur, à force que tout le monde me dit de toute façon tu verras il y a un mur, à un bout d'un moment tu vas le prendre, ben oui je l'ai visé. Donc effectivement, si vous donnez des conseils aussi pour passer ce type de choses là, c'est extrêmement intéressant. Et je pense que pour les gens je regarde en même temps, hein, je vois il y a parlé de séances de fartlek, séances de VMA, séances de seuil, etc. Pour les gens qui débutent, je crois que ça va ouvrir aussi l'horizon de découvrir des séances dont on n'a pas l'habitude, ou ils ont peut-être pas entendu parler, parce que si on n'a pas fait de club ou quoi que ce soit, c'est vrai que des fois c'est un peu juste les programmes où on voit des trucs, on dit à quelle vitesse je dois faire les répétitions, quoi que ce soit. Là, vous avez tout un tas de panels de séances en fait.
Ouais, c'est ça, en fait, c'est la course à pied, c'est de l'extérieur, les gens se disent, tiens, c'est monotone, tu fais tout le temps la même chose. Ils ont un peu le schéma enfin, le stéréotype du jogger qui va faire son petit footing autour de chez soi. Mais finalement, la course à pied, c'est ultra varié. Et moi, par exemple, quand j'étais en équipe de France sur 1500 mètres, finalement, sur une semaine, t'as en gros 5 séances qui sont assez distinctes. Donc, tu peux avoir une séance de côte, tu peux avoir des séances de fractionnés courts, de fractionnés longs. Des footings appuyés. Et donc, en fait, on se rend compte que la course à pied, c'est pas uniquement courir, mais c'est varier les allures et puis c'est s'amuser sur ces différentes allures. Et c'est souvent sur ces séances de vitesse qu'on a le plus de sensations. Et souvent, c'est les séances de VMA qu'on aime bien parce qu'on a l'impression de voler sur la piste. Et ouais, donc on essaye de faire découvrir toutes ces allures aux coureurs en fonction de l'objectif qu'ils préparent. Parce que si on prépare un 5 km ou un 10 km, on aura forcément un peu plus de VMA. Et si on prépare du marathon, bah des séances un peu plus longues. Donc forcément, on s'adapte aussi aux objectifs du coureur.
Et voilà. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que je regarde mon programme de VMA. Donc, vous dites courir 20 minutes entre 5,55 et 6,15, puis courir 10 fois 20 secondes à 3,44 avec 20 secondes de récup. Donc, il y a tout le guide en fait. Hein, derrière, on n'a plus qu'à programmer la montre et dire allez, j'ai plus qu'à y aller. Ça donne des petits conseils. Alors, je me disais, il y a un truc, mais je viens de voir en partie la réponse. Si je n'y vais pas. Ah, tu vois, je suis feignant ce jour-là, je n'ai pas envie d'y aller. Vous me mettez un rappel, vous mettez le coach autoritaire, il va m'engueuler s'il voit que j'ai loupé des séances. Comment ça va se passer?
Data, choisis quel coach?
J'ai pris le philosophe. Je voulais prendre le philosophe en fait parce que Socrate m'intéresse en fait. J'ai envie d'avoir Socrate.
Le philosophe, alors, si normalement, si tu ne fais pas ta séance, En tout cas, quand tu donnes, quand tu, parce qu'on va te demander comment s'est passée ta séance, donc tu vas me dire est-ce que ta séance s'est bien passée ou moins bien passée. Et en tout cas, pour le coach autoritaire, si jamais tu as bien réussi ta séance, il va t'encenser, il va trouver que t'es génial. Et par contre, si t'as pas réussi ta séance, bah, il va un peu te pourrir. Et par contre, le coach philosophe, lui, il va tout le temps relativiser. Et puis, il va apporter de la sagesse dont on a parfois besoin. Et souvent, dans les utilisateurs, on se rend compte que parfois, il y a des utilisateurs qui utilisent l'application d'abord avec le coach autoritaire et puis après qui basculent sur le positif. Et quand on l'utilise sur plusieurs mois, ben, on peut changer la personnalité du coach autant de fois qu'on veut, suivant comment on se sent.
D'accord, alors voilà, moi j'ai donc oui, j'ai bien pris Socrate, hein, j'étais en train de vérifier ce que me racontait Socrate. Venons-en maintenant, tiens, sur le. Parce que les gens doivent se dire, ouais, c'est cool et tout. L'application, qu'est-ce qui est gratuit, qu'est-ce qui est payant? Hein, on va séparer un petit peu les deux, qu'est-ce qui est gratuit, qu'est-ce qui est payant finalement dans cette histoire?
Et quand tu télécharges l'application, c'est 100% gratuit pendant 15 jours. Donc, c'est ce qu'on appelle la période découverte. C'est quand on a accès aux conversations avec le coach, notamment. Et donc, pour schématiser, ce qui est gratuit, c'est le plan d'entraînement. Donc, dans tous les cas, si on passe pas en premium, on aura toujours un plan d'entraînement. Et ce que vient ajouter la partie premium, c'est la partie coaching avec donc ces conversations avec le coach. Ses conseils sur la préparation physique, tout ce qui est un peu autour de la course à pied. Et donc la partie premium, c'est à partir de 9,99 € par mois ou 60 € par an. Il y a aussi une partie trimestrielle. Et donc ça, on peut commencer par exemple avec la partie gratuite et puis après basculer en version premium quand on le souhaite.
D'accord, effectivement, moi j'ai regardé. Alors, vous donnez pas le programme entier au début, hein, je le dis. On découvre au fur et à mesure parce que j'imagine qu'il s'adapte au fur et à mesure des entraînements, de ce qu'on a fait, de comment on progresse, hein.
Oui, exactement. Nous, ce qu'on veut pas, c'est un plan figé. Et donc, si on donne tout le plan d'entraînement comme ça à l'avance, bah, après, c'est plus compliqué de pouvoir modifier les semaines au fur et à mesure. Et après, si par exemple, si tu as des questions en particulier sur, tiens, quelle sera la durée la plus longue de ma sortie longue, si tu prépares un marathon, par exemple, est-ce qu'on monte jusqu'à 2 heures, 2 h 30? Enfin, les utilisateurs peuvent toujours poser les questions au service client. Puis dans ce cas-là, on leur répond. S'ils ont des questions plus, enfin, s'ils ont besoin d'avoir une vision un peu plus globale du plan d'entraînement, à 8 ou 10 semaines, par exemple.
D'accord. Voilà, donc j'ai connecté tout, moi je suis prêt à courir. Jusque cette semaine, je vais dire que je cours pas, puisque moi je reprends lundi, ma reprise à moi c'est lundi. Et donc mon programme,
Comme
bah,
ça, en septembre, tu vas passer sous les 40 minutes. C'est le
voilà.
but.
C'est le but, voilà. Donc bah, d'ailleurs, ça sera un bon test. Alors je sais pas si quelle course ça sera, mais ça sera intéressant de voir si en octobre, si je suis votre programme, si je passe dans les 40 minutes, alors là, ça serait vraiment miraculeux cette histoire-là. Mais allez, va savoir. On sait pas dans ces histoires-là. Finalement, après, on a parlé un petit peu de tout ça. Je le dis aussi, les gens diront, il y a le bilan. On peut voir le bilan des activités. Moi, j'ai importé tout mon Strava, enfin les 50 dernières activités. Donc ça montre le bilan, les dernières séances et autres. C'est moins quoi, c'est le but du jeu en fait, c'est de montrer quoi, la charge d'entraînement principalement, j'imagine, hein, d'évaluer si on est fatigué, s'il faut un petit peu faire une pause ou revoir un peu le plan, hein.
Exactement, c'est pour visualiser aussi quand on fait une préparation marathon. Bah, des fois, quand on arrive, je sais pas, la semaine du marathon, on a envie de voir, tiens, enfin, le chemin qu'on a parcouru à l'entraînement. Et souvent, le chemin, c'est tout aussi important que la course en elle-même. Et les coureurs ont besoin aussi de voir, de jeter un coup d'œil en arrière pour voir, tiens, tous les efforts que j'ai réalisés à l'entraînement. Et ça motive aussi pour le jour J. Et donc, nous, ce qu'on apporte en plus par rapport à Strava, c'est le calcul de la charge d'entraînement. Et la charge d'entraînement, ce qui est plutôt cool, c'est que ça prend en compte pas uniquement que la course à pied. Parce qu'aujourd'hui, souvent les trailers, ils ont une pratique qui est multiple. Tu peux faire aussi du vélo pour te préparer, tu peux faire aussi peut-être un peu de natation. Et donc, on prend en compte, ou du ski de fond l'hiver, et donc on prend en compte ces différents sports pour calculer la charge d'entraînement. Puisque, par exemple, si on fait une sortie de 2 heures en vélo, ça correspond à peu près à une sortie de 1 heure en course à pied. Et on peut tout à fait remplacer quelques séances de course à pied par des courses avec ce qu'on appelle l'entraînement croisé avec d'autres sports. Donc c'est pour ça qu'on prend en compte l'ensemble de ces séances-là.
Et c'est important, je le dis, hein, parce que c'est dans cette période de reprise, on a eu un entraînement très perturbé. Le surentraînement nous guette tous un petit peu. Hein, si on reprenait un petit peu comme des n'importe comment, si on ne faisait pas gaffe à programme de reprise, etc. Si on pense qu'on reprend comme on s'est arrêté, finalement, il faut se méfier parce que c'est là où c'est assez c'est piégeux, hein, cette période-là, parce qu'on a tous envie d'aller courir, de se dégourdir les jambes, etc. Et attention à la reprise. Faisons une reprise qui soit souple, j'ai envie de dire, et vraiment adaptée. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir aussi ce que vous avez à proposer, vous, dans le programme. Je précise aussi, si je veux changer mon objectif, je peux changer d'objectif, hein, je suis pas obligé ensuite de courir cette fameuse course le 4 octobre que j'ai rentré. On a fait un bon petit tour, hein, de l'application, et finalement aussi des conseils qu'on peut donner. Donc on va résumer un petit peu les conseils. Le premier truc là, vraiment, on va se dire, hein, maintenant, c'est j'essaie de me fixer un objectif qui soit pas forcément une course, mais finalement qui me fasse plaisir.
Ouais, exactement, on peut choisir un objectif en course à pied. Ça peut être aussi, moi je sais que j'ai envie de faire j'habite à côté de, enfin j'habite en Savoie, et j'ai envie de faire la Via Rhôna en vélo. Donc, je pense que je vais aussi me fixer cet objectif-là. Ça peut être objectif dans d'autres sports, et puis également en course à pied. Ça peut être un tour à la montagne, par exemple, ou si on a envie de faire, je sais pas, la distance du semi-marathon à l'entraînement autour de chez soi, c'est aussi possible. Et puis après, on suivra avec attention si les courses pourront avoir lieu à la reprise en automne.
D'accord. Et en plus, je pense d'ailleurs que c'est un bon plan, hein, de se dire, pour l'instant, on va reprendre, essayer de retrouver un niveau tel qu'on espère l'avoir. Et puis, la période qui viendra ensuite, suivant les dossards qu'on pourra avoir, et ben, on attaquera les vraies préparations en étant finalement, on va dire, on considère qu'on sera plus frais, hein, toi qui as l'expérience. Je sais pas si, quand tu étais athlète au niveau de l'équipe de France, s'il y avait des pauses dans l'année, si vraiment vous faisiez des pauses, si vous avez le temps de vous reposer dans l'année ou pas, comment ça fonctionnait. Mais parce qu'on dit souvent que finalement ça, on néglige un petit peu les pauses. Là, ça nous a obligés à faire une pause, hein, d'une manière ou d'une autre.
Ouais, souvent c'est quand on prend un peu plus le temps de récupérer qu'on arrive à faire des bonnes performances. C'est ce qu'on appelle le principe de surcompensation. On peut s'entraîner beaucoup pendant une certaine période, et puis après peut-être que le corps va être un peu fatigué. C'est aussi le but de l'entraînement, c'est de trouver le juste milieu entre stress qu'on donne à l'organisme et récupération. Et donc, déjà, il y a une coupure annuelle qui est souvent conseillée, qui est au moins de 2 semaines, qu'on peut faire aussi pendant cette période de confinement. Et puis, la progressivité, ce sera super important pour pouvoir justement ne pas tomber dans le surentraînement.
Oui, et puis je vous rappelle aussi que si vous avez fait une pause aussi longue que la mienne, la VMA, on l'a perdue. Oula, j'ai publié un chiffre, ça a un petit peu affolé les gens. J'ai dit, perdu plus de 26% de la VMA en 5 semaines d'arrêt. Donc, va falloir revenir doucement, petit à petit, etc. Et c'est vrai que c'est intéressant d'avoir un plan, de se remettre un plan. Moi, je trouve que c'est déjà un élément qui est important. C'est là où c'est intéressant d'avoir des coachs, la vie comme ça, des coachs comme ça. C'est que il va falloir peut-être reprendre l'habitude, hein, de retourner faire certaines séances, de retrouver le rythme, de trouver de se revenir dans les habitudes, tout simplement, de reprendre les baskets et d'y retourner. Parce que on a pris un autre rythme, hein, pendant cette période. Là. En tout cas, je te remercie beaucoup, 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 beaucoup pour ces conseils, puis pour ces présentations de l'application, qui est vraiment, je le dis, hein, c'est, elle est, moi j'étais surpris, je la connaissais pas, en fait, je pensais la connaître, honnêtement, hein, puis quand j'ai commencé à fouiller un petit peu dedans, etc., alors il y a des petites icônes, il y a des petits dessins, c'est super, comment dire, c'est conversationnel en plus, hein, pour vous verrez, hein, ça vous pose des questions, etc. Les projets, tu en as un petit peu parlé, hein, donc tu parlais de conseils d'alimentation, sophrologie, des choses comme ça. Il y a d'autres idées d'applications. Est-ce que ça pourrait s'appliquer d'ailleurs, tiens, à des gens qui pourraient faire un jour de la natation, du vélo, d'autres sports comme ça?
Oui, potentiellement, on pourrait aller plus tard dans le triathlon, par exemple, ou le vélo. Nous, aujourd'hui, notre cœur de métier, c'est pleinement la course à pied, c'est ce qui nous anime au quotidien. Donc peut-être que en fonction du succès de cette application là aujourd'hui on a 85 000 utilisateurs de l'application, et donc potentiellement on pourra s'ouvrir sur d'autres sports, mais je pense qu'il y a encore plein de on peut aller encore un peu plus loin sur l'entraînement en course à pied, justement avec le contenu dont on parlait, et peut-être, ouais, si on trouve la motivation pour se lancer sur d'autres sports, pourquoi pas. Et après dans les autres projets, c'est encore ce qu'on a commencé à faire en début d'année, en s'interconnectant encore plus à l'écosystème qui existe aujourd'hui, notamment avec Strava, Garmin, Polar et Suunto. puisque nous ce qu'on souhaite c'est que l'expérience utilisateur soit la meilleure possible. Et donc on va certainement donc on va ajouter on pourra exporter ces séances sur Garmin pour pouvoir avoir directement ces séances-là sur l'application, enfin sur sa montre. Et donc on va essayer de s'intégrer encore mieux à cet écosystème pour améliorer l'expérience.
D'accord, oui, qu'on puisse exporter la séance à programmer directement sur la montre comme ça, et ça nous évite une étape de programmation qui est un petit peu fastidieuse d'ailleurs. Moi je suis chez Polar, des fois c'est un petit peu pénible. Si un jour vous arrivez à mettre ça dans Polar, ça m'arrangerait, parce que rentrer certaines séances, c'est un petit peu longué, je trouve. Et leur interface n'est pas un modèle d'ergonomie. En tout cas, je sais pas comment c'est chez les autres, mais chez Polar, soyons clairs, c'est pas l'ergonomie royale. Hein. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Tu nous as d'ailleurs dit aussi un petit peu tes objectifs, hein, ce que tu allais courir. J'espère en tout cas que tout va aller pour le mieux pour nous tous, hein, qu'on va pouvoir reprendre un petit peu. On verra ce qu'il en est sur les différentes courses. N'hésitez pas à aller télécharger cette application, faire des essais, voir un petit peu ce qu'elle vous propose comme programme de reprise, hein, sur quoi elle vous amène, hein, comme terrain aussi. Je l'ai pas dit, hein, on peut choisir son terrain d'entraînement type aussi. Il y a des options comme ça. Vous verrez, il y a quand même pas mal d'options de choix. Et je vous mets tous les liens, bien sûr, en note de l'épisode. Je te remercie beaucoup Guillaume pour toutes ces informations-là. Est-ce qu'il y a d'ailleurs un compte Instagram, des Twitter, des choses comme ça, où on peut aussi suivre un petit peu? Il y a d'autres conseils complémentaires, une chaîne YouTube peut-être?
Oui, on a des réseaux sociaux sur chacune des plateformes. Donc, je vous invite à nous suivre sur RunMotion Coach, sur Facebook, Instagram, YouTube. Vous pourrez retrouver des vidéos qu'on a faites sur la préparation physique, quelques vidéos aussi sur des mouvements de yoga, d'étirement. Et donc, si jamais vous avez des questions en particulier sur l'utilisation de l'application, on vous répondra avec plaisir. Et donc, je te remercie, Bertrand, pour ce podcast qui est riche en enseignements, je pense, pour cette reprise. Et donc, je souhaite à tout le monde une reprise avec beaucoup de progressivité. Et puis, j'espère que vous prendrez beaucoup de plaisir dans les prochaines semaines pour préparer vos prochains objectifs.
Eh ben, c'est tout ce qu'on nous souhaite à tous, hein, parce que c'est vraiment ce qu'on a envie de retrouver un petit peu, que ça nous démange. Moi, c'est vrai que ça me démange. Je le dis, je porte mon short de course tous les jours presque. Je change mes shorts de. Je suis devant ma fenêtre, je guette, je commence à guetter le moment où je vais pouvoir aller sortir. Maintenant, ça commence un petit peu à être long, je l'avoue. Donc, j'espère, hein, tous, et on se retrouve nous tous la semaine prochaine pour un nouvel épisode qui, normalement, on verra, mais ça serait un épisode après déconfinement, et on parlera d'un autre sujet, mais vraiment d'un autre sujet, mais où j'ai eu aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions, parce qu'on parlera notamment d'évolution de la foulée, notamment de courir plus minimaliste, avec des conseils qui viendront directement, vous verrez, de quelqu'un qui s'y connaît très bien dans le domaine. Allez, sur ce, je vous souhaite à tous une très, 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 très belle journée. Guillaume, je te souhaite une très belle journée. Merci encore pour ces conseils, et à très bientôt tout le monde.
Merci Bertrand, bonne journée à tous.